Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Eric Maniakidza à la présentation de cette édition du vendredi 28 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. À Bamako, le colonel Assimi Goïta devait s'adresser aux acteurs politiques de la société civile malienne vendredi après-midi. La CDAO se réunit en sommet extraordinaire dimanche au Ghana pour examiner la réponse à apporter à ce nouveau coup de force au Mali. L'Allemagne reconnaît avoir commis un génocide en Namibie contre les Herero et les Nama au début du XXe siècle. Le président français Emmanuel Macron en Afrique du Sud pour une visite centrée sur la lutte contre le Covid-19 et la crise économique engendrée par la pandémie. Les sénateurs républicains ont bloqué la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier par des partisans de Donald Trump. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Il était prévu vendredi après-midi à Bamako une rencontre entre le colonel Assimi Goïta et les acteurs politiques et civils maliens. Une occasion de préciser ses intentions après avoir repris les rênes du pouvoir dans un deuxième coup de force en 9 mois. Les dernières 24 heures ont été dominées par l'abrogation des décrets de nomination de responsables de la présidence. Mohamed Danioko nous fait le point.
À peine la démission de Bandao et de Mokhtar Wane rendue, le vice-président Assimi Goïta prend les choses en main, comme il l'avait fait savoir lors de sa première rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Dans la nuit d'hier jeudi, il a abrogé 5 décrets de nomination à la présidence de la République. Il s'agit de celui du directeur de la communication Salif Sanogo, du conseiller diplomatique Mohamed Astia, du chef d'état-major particulier de Bandao, le colonel Daouda Sogoba, et le secrétaire général de la présidence, Dr Kalilou Doumbia. Sur le conseil de sécurité des Nations Unies, s'est déjà réuni à la demande de la France sur le cas malien. La CEDEAO compte le faire le dimanche 30 mai prochain à Accra, au Ghana. Au cours de ce sommet extraordinaire, la communauté va décider de l'attitude à adopter à l'endroit du Mali, mais surtout des militaires. Ici, l'on craint qu'une décision d'embargo soit prise à l'encontre du Mali et des Maliens. Mohamed Danioko, VOA, Bamako.
Au moins 7 civils ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans 2 attaques attribuées au groupe armé d'origine ougandaise, Force démocratique alliée ADF, dans l'est de la RDC. Les cibles étaient d'abord un camion qui transportait une cargaison de cacao vers Kassindi. Le chauffeur a été tué par balle et 2 autres personnes ont été calcinées à l'intérieur du véhicule. Puis les mêmes ADF ont aussi brûlé 5 personnes dans leur maison, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. Dans cette même zone du secteur de Rwenzori, dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 26 civils avaient été massacrés par des ADF, selon les autorités et des sources humanitaires. Près de 400 000 personnes, dont 80 000 ménages, ont quitté Goma dans l'est de la RDC après un ordre d'évacuation préventive et obligatoire. Selon les autorités locales, une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo est toujours à craindre. Une première éruption sans aucun signe avant-coureur a eu lieu samedi dernier. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort et entre 900 et 2500 habitations ont été détruites, soit déjà environ 20 000 sans-abri ou déplacés. La police congolaise a dispersé vendredi une marche des partisans de Vital Kamerhe, allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il comparaîtra en appel lundi après sa condamnation dans une affaire de détournement d'argent public. Des centaines de manifestants ont tenté de marcher dans le centre de Kinshasa pour obtenir la libération de M. Kamerhe. Ils estiment qu'il a été condamné sans preuve à 20 ans de prison en première instance pour détournement de 50 millions de dollars alloués à des travaux d'urgence du président Tshisekedi. Au moins 3 civils ont été blessés par l'explosion de grenades jeudi soir dans la ville de Muramvya, au centre du Burundi. Mardi soir, à la même heure, 3 attaques simultanées à la grenade ont visé des arrêts de bus de Bujumbura, faisant 4 morts ainsi que des dizaines de blessés. à Mourandia, au moins 12 personnes, dont un officier supérieur de l'armée, avaient été tués début mai dans une embuscade tendue par un groupe armé non identifié. L'Allemagne a reconnu aujourd'hui avoir commis un génocide contre les populations des Herero et Nama en Namibie pendant l'ère coloniale et va verser au pays plus d'un milliard d'euros d'aide au développement. Une première dans l'histoire coloniale du continent. Jean-Roger Dion.
Oui, Windhoek n'a pas boudé son plaisir. Le gouvernement namibien a fait savoir que c'est un pas dans la bonne direction. Les crimes commis pendant la colonisation empoisonnent depuis de nombreuses années les relations entre l'Allemagne et la Namibie. Les colons allemands ont tué des dizaines de milliers d'Hereros et de Namas lors de massacres commis entre 1904 et 1908, considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Les autorités namibiennes exigeaient des excuses officielles et des réparations, mais l'Allemagne s'y était à plusieurs reprises opposée, invoquant les millions d'euros d'aide au développement versés à la Namibie depuis son indépendance en 1990. Le ministère allemand des Affaires étrangères a salué aujourd'hui la conclusion d'un accord avec la Namibie après plus de 5 ans d'âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l'Allemagne entre 1884 et 1915. Le président namibien organisera dans les semaines à venir des discussions avec les représentants des communautés Hereros et Namas sur les modalités de mise en œuvre de ce qui a été convenu avec l'Allemagne, a précisé un porte-parole du gouvernement namibien.
Le président français Emmanuel Macron est en visite officielle en Afrique du Sud avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a évoqué la lutte contre le Covid-19 la semaine passée au sommet de Paris pour l'Afrique. Emmanuel Macron avait plaidé pour développer une capacité de production de vaccins en Afrique. Il a répété cette volonté aujourd'hui de Pretoria, les précisions de Patricia Huron.
Emmanuel Macron a commencé sa visite à Pretoria, la capitale sud-africaine, où il a rencontré le président Cyril Ramaphosa. Cet après-midi avait lieu une cérémonie avec des scientifiques à l'université de Pretoria. Celle-ci marquait le lancement d'une initiative d'appui à la production de vaccins pour l'Afrique. Un sujet de discussion central lors de cette visite du président Macron, car une éventuelle levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 est désormais sur la table. C'est une cause que l'Afrique du Sud plaide depuis plusieurs mois auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Les autorités sud-africaines voudraient voir des partenariats et des transferts de technologies se mettre en place afin de permettre la fabrication de vaccins par des laboratoires sud-africains et de permettre ainsi un meilleur approvisionnement des pays du continent. Ce soir, Emmanuel Macron sera à nouveau reçu par Cyril Ramaphosa pour un dîner. Demain matin, enfin, il doit se rendre à la Fondation Nelson Mandela. Patricia Huon, Johannesburg, pour VOA Afrique.
La marine tunisienne et les gardes-côtes ont intercepté dans la seule journée de vendredi au moins 262 migrants qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe à bord de plusieurs embarcations parties de Tunisie et de Libye, a indiqué le ministère de la Défense. Un premier groupe de 158 personnes, des Tunisiens et des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, âgés à l'exception de 2 bébés de 15 à 37 ans, a été ramené à terre. Ils étaient partis dans la nuit de jeudi à vendredi de Sidi Mansour, dans l'est, dans la région de Sfax, importante zone de départ clandestin vers l'Italie. 11 personnes ont été tuées en moins d'un mois par des mines en Centrafrique. Cette menace prend de l'ampleur dans ce pays, s'est inquiété l'ONU dans un communiqué publié vendredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les Républicains ont bloqué vendredi la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier par des partisans de Donald Trump en affirmant que les investigations policières et parlementaires déjà en cours suffisaient. Abdulrahman Dia.
Il n'y aura donc pas de commission parlementaire sur les événements du 6 janvier, jour de la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle et qui s'était soldée par la mort de 5 personnes, dont un policier. Il aurait fallu 10 voix républicaines pour se joindre aux 50 démocrates pour limiter le temps des débats au Sénat et parvenir à un vote final sur cette commission. À l'arrivée, seuls 6 républicains ont voté pour. C'était un différent scénario à la Chambre qui avait déjà voté en faveur de la mise en place de la commission. 35 républicains avaient rejoint la majorité démocrate pour dire oui. Le président du Sénat, le démocrate Chuck Schumer, accuse les républicains d'avoir bloqué la création de cette commission par peur ou par fidélité à Donald Trump. Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine au Sénat, qui avait estimé que l'ancien président Donald Trump avait une responsabilité dans les incidents du 6 janvier, s'oppose à la mise en place de cette commission qu'il qualifie de politique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, ce soir, Nathalie Barge signe la Minute Éco.
Au Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a ouvert un bureau de nanocrédit au quai de pêche de Yoff. Le maire de la commune, Abdoulaye Diouf Sarr, a exhorté la DRFJ à continuer dans cette lancée. Le premier bureau nanocrédit a été créé l'an dernier au marché central aux poissons de Pékin. Près de 1300 personnes, essentiellement des femmes, y ont souscrit. D'autres sont prévues notamment à Kédougou, Kafrine et Tambacounda. Au Cameroun, les régions de l'Adamoua et du Nord sont les plus performantes en matière d'exécution du budget d'investissement public, selon le Comité national de suivi. En 2020, ces deux régions ont enregistré des taux de réalisation des projets de plus de 96%. En revanche, les régions du Nord-Ouest et de l'Est affichent de très faibles taux. Cela s'explique par la mobilisation tardive des fonds, l'abandon des chantiers par les prestataires, l'enclavement et la crise sécuritaire, estime le comité.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour la page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît les affiches complètes des deux demi-finales de la Basketball Africa League qui se disputent à Kigali au Rwanda. Les Patriotes du Rwanda justement continuent de faire sensation. Ils ont arraché hier de justesse leur ticket pour les demi en venant à bout des Mozambicains de Ferroviaro de Maputo, 73 à 71. Dans ce dernier carré, les Rwandais feront face aux Tunisiens de l'US Monastir qui ont pulvérisé un peu plus tôt les Sénégalais de l'AS Douane 86 à 62. L'autre demi-finale opposera les Égyptiens du Zamalek aux Angolais de Petro de Luanda. Les demi-finales se joueront ce samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Et comme d'habitude, vous pouvez tout suivre sur la balle en écoutant les matchs en direct sur les radios partenaires de la VOA et bien sûr sur notre site voafrique.com. Du basketball toujours et nous restons à Kigali au Rwanda où s'est tenu ce vendredi le tirage au sort de l'afro-basket masculin prévu dans la capitale rwandaise du 24 août au 5 septembre prochain. La poule A comprend le pays hôte, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Angola et le deuxième du groupe E des éliminatoires où ça se joue entre le Maroc, le Cap-Vert ou l'Ouganda. Dans la poule B, on retrouve la Tunisie, la Centrafrique, l'Égypte et la Guinée. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Mali composent la poule C. Et enfin, dans le groupe D, il y a le Sénégal, le Cameroun, le Soudan du Sud et le troisième qualifié du groupe E. Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Les Lakers ont pris la main dans leur série en battant avec autorité Phoenix 109 à 95 pour mener 2-1. Cette victoire est la première en playoff au Staples Center depuis le 18 mai 2012 pour Los Angeles Lakers, puisque son sacre de l'an passé a eu lieu dans la bulle d'Orlando. De son côté, Milwaukee n'est plus qu'à une victoire des demi-finales de la conférence Est. Après sa nouvelle démonstration de force à Miami 113 à 84, les Bucks peuvent en finir dans cette série dès samedi s'ils remportent un quatrième succès d'affilée. À l'ouest, Denver s'est imposé devant Portland 120 à 115 pour prendre l'avantage dans son duel très serré. Les Nuggets mènent 2-1 dans leur série. Football, une chose est sûre, au moins un Africain sera sacré champion d'Europe demain. La finale de la Ligue des Champions oppose ce samedi 29 mai à Porto au Portugal, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, à Chelsea du Marocain Hakim Ziyech et du portier sénégalais Edouard Mendy. Les gradins seront parsemés de 16 500 supporters, dont environ 10 000 venus du Royaume-Uni.
Merci Yacouba pour les sports.
Disponible au monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Manila-Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les États-Unis ont brandi de nouvelles menaces de sanctions contre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les États-Unis accusent ces deux pays de ne rien faire pour arrêter les violences contre les civils dans la région du Tigré. Le Congrès américain réfléchit également à des mesures punitives contre Addis Abeba et Asmara. Mise en perspective, Cindy Sen, récit Jean-Roger Dion.
La région du Tigré paye un lourd tribut à la guerre après plus de 6 mois d'affrontements entre les rebelles du TPLF et les forces armées éthiopiennes et leurs supplétifs érythréens. Le conflit a fait des milliers de morts et environ 2 millions de personnes ont été chassées de leurs foyers. La famine guette maintenant 5 millions de réfugiés internes. Le président de la Commission des relations extérieures au Sénat américain, Bob Menendez, a présidé jeudi une audition sur la crise au Tigré. Le législateur démocrate a établi un parallèle avec le génocide au Darfour.
Toutes les parties sont coupables d'abus, mais les informations dont nous disposons indiquent que les milices éthiopiennes, érythréennes et leurs alliés portent une lourde responsabilité dans les violences contre les civils, dont la barbarie, le dispute au cynisme. Nous semblons être témoins de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Alors que la violence et la crise humanitaire prennent de l'ampleur, le sénateur Menendez et quelques-uns de ses collègues ont sommé le département d'État d'évaluer rapidement les faits, à l'effet de déterminer si les atrocités commises au Tigré peuvent être qualifiées de crimes de guerre. Le sénateur républicain Jim Risch.
Les États-Unis et leurs alliés doivent passer à l'action, aller au-delà du simple dialogue et de la diplomatie avec les gouvernements éthiopiens et érythréens.
Les informations au Tigré ont montré des viols collectifs de femmes et de jeunes filles. Les victimes ont trouvé un refuge dans un lieu sûr à Mekele, où elles se reconvertissent dans l'apprentissage de nouveaux métiers. Sarah Charles de l'USAID a fait état dans son témoignage au Sénat de graves atrocités.
Les rapports ne parlent pas seulement d'incidents généralisés, de viols et d'autres violences sexistes contre les femmes, mais de tentatives systématiques de démantèlement de la société et de destruction des familles. Certains agresseurs ciblent les épouses de pasteurs, maltraitent les femmes devant leur famille ou utilisent un niveau de violence si brutal que les femmes se retrouvent avec des dommages aux organes.
L'Éthiopie se trouve désormais à la croisée des chemins après avoir pris un brillant départ avec le premier ministre Abiy Ahmed. À moins que le pays ne change de cap, il pourrait faire face à d'autres mesures telles que la loi Magnitsky qui permet le gel des avoirs et l'interdiction aux auteurs de violations des droits humains de séjourner aux États-Unis. Robert Godek du Bureau des affaires africaines au département d'État.
L'Éthiopie est à un tournant. La réponse du gouvernement face aux arrestations massives, aux restrictions des médias, aux violations des droits de l'homme et à la crispation de l'espace politique alimente les rivalités intercommunautaires et met en péril les élections nationales désormais prévues pour le 21 juin.
Le gouvernement éthiopien, pour sa part, continue de nier les exactions commises sur les civils au Tigré, en dépit des preuves présentées par les organisations des droits de l'homme. Addis Abeba affirme que la grande majorité des personnes tuées au Tigré sont des combattants et non des civils. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de s'ingérer dans leurs affaires intérieures et menace de revoir sa coopération avec Washington si les sanctions se poursuivent.
Des experts de 6 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se réunissent depuis jeudi à Cotonou pour trouver des solutions au sous-emploi des femmes et des jeunes. C'est une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Cet atelier sur l'employabilité des jeunes et des femmes entre dans le cadre du projet de promotion du conseil scientifique au gouvernement en matière de création d'emplois et d'entrepreneuriat aux femmes. Avant le Bénin, le projet avait été accueilli au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali. À l'étape du Bénin, les experts mesurent amplement la tâche qui leur revient pour repousser loin les limites du chômage. Professeur Ouma Sok est le secrétaire perpétuel de l'Académie scientifique du Sénégal. Sénégal.
Ce projet vise à dégager les synergies optimales entre les universités et centres de recherche, les académies, les conseils économiques et sociaux et toutes les parties prenantes pour mettre à la disposition de nos gouvernements les réflexions et recommandations des scientifiques de notre sous-région.
Au Bénin, le sous-emploi bat des records selon une étude de la Commission économique pour l'Afrique intitulée Profil pays 2018. 72% de la population active est sous-employée. Le taux de chômage, quant à lui, est de 2,4% et concerne aussi bien les femmes que les hommes. C'est pour cela que Maurice Zanlon, directeur suivi évaluation à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, se réjouit de cette initiative.
Le gouvernement du Bénin accueille favorablement cette initiative d'aide à la décision basée sur de l'évidence scientifique. Je salue et applaudis cette initiative noble de l'Académie des sciences du Sénégal d'inviter ses pairs de ces six pays ainsi que les conseils économiques respectifs pour aborder ensemble les difficiles problématiques sous-régionales de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin.
La question de l'employabilité se pose avec acuité au Bénin et interpelle le gouvernement qui, selon certains citoyens, doit travailler à financer les projets des jeunes à défaut de les recruter dans la fonction publique.
Les jeunes continuent toujours d'attendre que le nouveau gouvernement fasse quelque chose en leur faveur. Mais il reste encore du pain sur la planche, comme on le dit.
Que le gouvernement actuel ait vraiment un regard sur les jeunes, sur l'emploi des jeunes, afin que ceux qui ont les diplômes, que ce soit académiques ou professionnels, les hommes de métier, tous puissent trouver affaire.
Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stage et de les laisser 2 ans après à la maison.
Mais qu'en est-il de la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin? Beaucoup pensent que malgré les sensibilisations et même avec une volonté politique, les femmes auront du mal à s'affirmer comme il le faut dans le domaine de l'entrepreneuriat. Isabelle Oshumari est experte en genre et écrivain.
La promotion de la femme est une priorité aujourd'hui. Il faut vraiment y penser. Il faut travailler à cela. Il faut que la femme s'impose et il faut qu'elle s'affirme davantage.
Il est annoncé les 5 et 6 juillet prochains un colloque à Dakar. Il permettra la transmission du rapport général et un projet d'avis à remettre au gouvernement afin d'aider à régler au mieux le problème de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat des femmes. De Cotonou, Ginette Lua dans les pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ouganda et la RDC ont signé hier des accords pour construire des routes en territoire congolais. Le président ougandais Yoweri Museveni a précisé que les accords concernent aussi la défense, la sécurité, le commerce et les investissements. Ce compromis intervient alors que la RDC a saisi la Cour internationale de justice en vue d'exiger l'Ouganda de payer des dédommagements pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le sol congolais. Eddy Isango a joint à Kinshasa le député et rapporteur de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, Juvenal Munubo.
Parmi ces accords, il y a des accords en rapport avec la défense et la sécurité, il y a des accords en rapport avec les commerces, en rapport avec les infrastructures, mais je ne sais pas encore les contenus de ces accords et nous attendons tout ce que ça passe au Parlement.
Mais comment ça se fait? Les accords sont signés et après ramenés au niveau du Parlement ou c'est le Parlement qui doit d'abord ratifier pour que l'on signe?
Il y a des accords non soumis à ratification qui ne passent pas au Parlement. C'est souvent ce qu'on appelle en anglais des gentlemen agreements. Donc le gouvernement les négocie et les signe. Mais la Constitution, à l'article 214, liste un certain nombre d'accords qui doivent passer par le Parlement. Et c'est le cas des accords de paix, les accords de commerce, des accords qui engagent les finances publiques. Donc il y a toute une liste des accords. Et les accords signés avec l'Ouganda, ça rentre justement dans le cas des accords qui doivent passer au Parlement. Tous ces accords doivent passer au Parlement. Alors on attend. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les accords de défense. Et je voudrais savoir si ces accords comporte comme clause l'entrée des troupes étrangères au Congo, auquel cas je vais m'opposer parce que j'ai toujours pensé que ce n'est plus opportun aux troupes étrangères d'entrer en territoire congolais, surtout des troupes ougandaises, des troupes rwandaises, parce que dans l'histoire du Congo, il n'y a pas beaucoup d'années, on se souviendra que ces troupes étaient ici, d'abord dans le cadre d'une agression, et puis ces troupes ont même y a livré bataille entre elles. Rappelez-vous de la guerre de Kisangani entre les Rwandais et les Ougandais, avec de nombreux citoyens citoyens qui ont perdu la vie. Et donc, avec l'Ouganda, par exemple, on pourrait uniquement se limiter à l'échange des renseignements et pas autoriser que les Ougandais, leurs militaires ou leurs troupes entrent encore en République démocratique du Congo. Le faire, hein, c'est quand même avoir une courte mémoire. Et surtout qu'avec l'Ouganda, les contentieux demeurent. Souvenez-vous de ces jugements, hein, de cet arrêt de la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda pour agression. Et l'Ouganda, jusque-là, n'a pas encore honoré tous ses dommages intérêts, n'a pas encore payé tout le dommage intérêt en faveur de la RDC. Alors le contexte, je crois, ne se prête pas vraiment à autoriser l'entrée des troupes étrangères. Mais nous pouvons coopérer, évidemment, avec l'Ouganda, mais reste à savoir, nous coopérons sur quoi exactement. Je puis comprendre qu'il y aura des routes qui seront construites ici par l'Ouganda, mais il faut aussi se poser la question, quel sera l'intérêt pour l'Ouganda? Est-ce que l'Ouganda peut nous construire des routes à l'Est? Et il faut qu'on arrive à identifier l'intérêt stratégique pour l'Ouganda dans ça.
Que devient alors les procès en cours si l'Ouganda doit déjà commencer à construire des routes alors que la RDC exigeait 10 milliards de dommages par rapport à tous ces crimes, tueries commis en RDC?
Il revient au gouvernement congolais de nous dire quelle est la priorité par rapport aux relations avec l'Ouganda. Est-ce que c'est d'obtenir les dommages d'intérêt pour agression ou la priorité c'est faire des projets intégrateurs comme on le présente avec l'Ouganda?
Le député Juvenal Munubo, rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le basketball burkinabé a souffert ces dernières années de plusieurs maux, dont l'absence de compétition, mais surtout des querelles entre les acteurs. Cette situation a fait que le ball au panier, l'un des sports les plus pratiqués, est devenu moribond au fil du temps. L'espoir semble renaître avec la nouvelle fédération mise en place depuis novembre 2020. De notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Le basket burkinabé vit des moments difficiles. Il avait pourtant suscité beaucoup d'espoir dans les années 2010, mais très vite tombé dans la léthargie, alimentée par une crise au niveau des acteurs. Le championnat national, baromètre de la discipline, ne se joue plus depuis quelques années.
La situation du basketball burkinabé ces dernières années est catastrophique.
Sal Bado, candidat malheureux à la dernière élection à la tête de la Fédération burkinabé de basket.
Nous avons vécu des saisons de non-championnat, des saisons où le championnat n'a pas été effectivement joué, et aussi des problèmes dans la gestion même, que ce soit des hommes et des finances.
La fédération d'alors, dirigée pendant 8 ans par Joachim Baki, était en proie à des difficultés. Du coup, tout était à l'arrêt, au grand désarroi des amoureux de la balle au panier, notamment les pratiquants de la discipline.
Le basket au Burkina, en fait, c'est un problème managérial, c'est un problème de personne, en fait.
Olo Césarien, basketteur qui a très vite raccroché les crampons.
Les dirigeants de nos jours, franchement, ce ne sont pas des personnes, en fait, qui doivent, en fait, diriger, en fait, cette discipline au Burkina. Nous avons de la matière première, tout ce qu'il faut. Juste avant le président Baki, tout allait bien. Au départ, tout le monde a cru à son projet. Il a même qualifié l'équipe, en fait, à la première fois à l'Afro-Basket. Mais juste après ça, en fait, il n'y avait plus rien. Les basketteurs n'en demandent pas trop. Ils veulent juste jouer.
Et pour ne rien arranger à la situation, les clubs aussi sont mal organisés. Mahamadou Zungrana Dibane, promoteur de basketball.
Dans nos clubs, le président est le trésorier, le secrétaire général, il est le tout en même temps. Et aussi, nous avons le problème de formation. Les formateurs ne sont pas formés.
C'est la raison pour laquelle, lui, il s'est engagé dans la formation des tout-petits à travers un camp vacances basket et une académie.
Camp vacances basket que nous avons lancé il y a 23 ans, il faut dire que c'était quand même pour amener les enfants à pratiquer le basketball à grande échelle. Nous avons détecté des enfants qui jouent, certains jouent aujourd'hui aux États-Unis, qui jouent en Europe, et voilà, qui, nous avons donné l'amour du basketball à ces enfants.
Aujourd'hui, l'espoir semble renaître avec la nouvelle fédération dirigée par Souleymane Yameogou. Celui-ci veut donner au basket burkinabé ses lettres de noblesse.
Le championnat était lancé, il reste à le maintenir jusqu'à son terme, et puis également anticiper sur le championnat prochain. Nous comptons véritablement mettre en place une politique de développement pour notre discipline au cours des 4 années à venir.
Les ambitions sont grandes, il va falloir aller très vite pour rattraper le temps passé et aussi avoir son mot à dire dans le Conseil des Nations. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mangakiza était à la présentation, le Stéphane au monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.